Bonjour, sommes-nous libres de nos actes? Le libre arbitre existe-t-il finalement? Dans quelle mesure sommes-nous influencés par notre culture, notre milieu, les injonctions des sociétés dans lesquelles nous vivons? Je me suis plus d'une fois posé ces questions en lisant le livre passionnant d'Audrey Chabal, notre invitée aujourd'hui. Cet essai s'intitule « Souriez, vous êtes nudgé. Comment le marketing infiltre l'État ?» Le nudge va être en effet au cœur de cette émission. C'est un procédé, doit-on parler de science, qui consiste à nous influencer sans que nous nous en apercevions, et cela va très loin. Et il est à ajouter à la liste des techniques qui cherchent à guider nos comportements, comme la publicité par exemple, sans parler de la propagande. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idée qui interroge ceux qui pensent le monde. Un magazine que vous pouvez télécharger sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio pour l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Audrey Chabal.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir à ce micro. J'ai beaucoup aimé votre livre et j'ai découvert son sujet d'étude, le nudge. Alors je précise que vous êtes journaliste indépendante, spécialiste d'économie et des questions de société liées à l'économie donc. Et vous venez donc d'écrire ce livre, Souriez, vous êtes nudgé. Et finalement, on n'a pas tellement envie de rire quand on lit votre livre.
Oui, alors le titre, c'est une idée qui est venue comme ça parce que le nudge est souvent très infantilisant. Ce sont souvent des petites incitations ludiques. Et on s'est dit que le titre « Souriez, vous êtes nudgé »
était dans le ton.
Voilà, sans contraindre, mais de manière ludique. Et ça soulignait bien cette idée-là.
Est-ce que c'est une idée nouvelle, finalement? On va évidemment l'étudier, enfin, voir ce que signifie ce nudge. Mais est-ce que c'est nouveau?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que le terme est plutôt nouveau. Il a été inventé par Richard Thaler et Cass Sunstein, donc un économiste et un juriste, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Nudge, qui a été publié en 2008. Mais l'idée derrière le nudge n'est pas vraiment nouvelle. Vous avez parlé de la publicité, on peut parler du marketing aussi ou de la propagande. Toutes ces techniques-là utilisent d'une certaine manière ce qu'on appelle aujourd'hui des nudges.
Alors vous écrivez, Audrey, que le nudge est un outil de l'économie comportementale qui s'attache à étudier l'influence des émotions et des biais propres à chaque personne sur les décisions économiques. C'est un procédé qui implique que l'on s'intéresse au comportement humain.
Tout à fait. Alors l'idée de départ est venue de la psychologie cognitive et de la psychologie sociale. À l'inverse de l'économie néoclassique qui considère que l'individu est un homo economicus, donc un être parfaitement rationnel qui prend des décisions totalement informé, l'économie comportementale, à l'inverse, va considérer que l'individu est biaisé à un environnement, un contexte, une histoire, des émotions, et qu'il est soumis à toutes ces choses-là qui vont faire en sorte qu'il prendra de mauvaises décisions, ou en tout cas des décisions non éclairées.
Alors cette histoire de comportement des peuples, des individus, c'est une vieille histoire. Moi je pense au livre, vous y faites référence d'ailleurs, de Gustave Le Bon qui doit dater de la fin du 19e siècle, qui s'intitule « La psychologie des foules ».
Oui tout à fait. Alors la psychologie des foules, c'est très intéressant dans la mesure où on a étudié pour la première fois avec Gustave Le Bon le comportement des êtres en société. Et Edward Bernays s'est appuyé sur l'ouvrage de Gustave Le Bon.
On va revenir sur lui.
Hein. Voilà, pour publier ensuite un ouvrage sur la psychologie des foules. Et l'idée, effectivement, c'est de considérer que l'individu n'est pas tout seul, isolé, pour prendre une décision, mais qu'il est influencé par le comportement des autres et par la société en général.
Vous écrivez, Audrey Chabal, que ce nudge, c'est un peu un concept perméable. C'est-à-dire qu'on y met un peu ce que l'on veut, non?
Alors oui, malheureusement, la définition du nudge est un petit peu élastique. Ça dépend comment on se positionne. Par exemple, Cass Sunstein, lui, va considérer qu'un passage piéton est un nudge. On pourrait considérer au contraire qu'un passage piéton, c'est dans le code de la route et que ce n'est pas un nudge. Mais pour lui, c'est un nudge dans la mesure où on peut traverser si on le souhaite, au-delà des clous. En revanche, le passage piéton est là pour nous inciter, pour nous guider à prendre ce chemin tracé et à inciter les automobilistes à s'arrêter pour laisser passer les piétons à cet endroit-là. Donc pour lui, c'est un nudge. Donc c'est en ça que le concept du nudge est très élastique puisqu'on y met un petit peu tout ce qu'on veut. Et on a vu durant la pandémie que des termes de communication, des mots, ont été marqués du sceau du nudge, justement parce qu'il y a cette idée un petit peu de scientificité derrière qui vient appuyer un propos, ou en tout cas appuyer un concept.
Alors donnez-nous un exemple. Bon, vous venez de parler du passage pour piétons. Donnez-nous un vrai exemple de nudge. Alors, exemple de vrai nudge, plutôt.
On peut parler de l'exemple le plus classique et le plus connu, c'est peut-être la mouche.
La fameuse mouche.
Voilà, la fameuse mouche dessinée au fond de l'urinoir. Donc ça a été inventé par le chef de la propreté à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas. L'idée, c'était d'inciter les hommes à viser cette mouche au fond de l'urinoir pour diminuer les éclaboussures et de là, diminuer les frais de nettoyage. Donc ça, c'est un nudge qui est très connu et très classique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information, aucune incitation autre que cette mouche. Et ça s'adresse directement justement à cet aspect ludique qui est en chacun de nous. Les hommes s'amusent à viser. C'est en ça que c'est un nudge qui est très classique et très connu parce que ça se passe de commentaires en fait.
Vous prenez l'exemple aussi des mégots qui constituent un véritable fléau dans les villes. Et le nudge permet parfois de faire en sorte que les fumeurs jettent leurs mégots là où il faut.
C'est ça. Alors, tout à fait. Je m'en suis rendu compte en me promenant dans Paris. Je suis tombée sur un nudge, donc un boîtier composé de deux colonnes transparentes avec d'un côté raclette et de l'autre fondu.
Êtes-vous raclette ou êtes-vous fondu?
Mais l'idée, c'était d'inciter les fumeurs à voter pour raclette ou fondu. Alors, il y a d'autres propositions qui sont faites dans d'autres boîtiers. Donc, par exemple, ça va être Messi ou Ronaldo, l'œuf ou la poule, etc. Donc, ces petites incitations ludiques vont inciter les fumeurs à jeter leur mégot en votant, donc c'est amusant. Et en même temps, ils ne jettent pas leur mégot par terre.
Peut-être, puisque vous parlez de vote, inciter le nudge à faire en sorte que le nudge incite les électeurs à voter, peut-être.
Ça a été fait. La BVA Nudge Unit, donc qui est une unité nudge qui appartient à l'entreprise BVA, avait fait en 2014, avait envoyé un petit texto pour inciter justement les individus à aller voter, avec une campagne qui s'appelait « Oui, je vote », qui était très incitative. Et donc, les électeurs recevaient sur leur portable un texto pour les inciter à aller voter.
Alors ces exemples qui peuvent paraître drôles et qui le sont, voire anecdotiques, et là ils ne le sont pas, sont quand même très parlants parce que le nudge va beaucoup plus loin que cela, évidemment. Je répète, je voudrais qu'on s'y attarde un instant, pour savoir qu'un individu va être incité à faire quelque chose pour jouer sur le côté ludique que nous avons chez chacun de nous, cela veut dire qu'il y a une étude approfondie de l'être humain.
Oui, tout à fait. Alors, c'est en ça que les sciences comportementales sont vraiment, véritablement des sciences. L'idée, c'est vraiment d'étudier les comportements. Donc là, on s'attarde sur la psychologie cognitive et la psychologie sociale pour savoir comment les individus vont réagir à telle ou telle incitation. Donc, on va étudier leur manière de se comporter. Le marketing utilise ça avec, par exemple, des magasins expérimentaux, de faux magasins, dans lesquels on invite des individus à faire leurs courses, normalement. Et par exemple, il va y avoir mis en avant un certain paquet où on va leur proposer une certaine orientation dans le magasin et on va étudier leur comportement à l'intérieur, voir s'ils achètent plus ou moins tel ou tel produit en fonction qu'il est positionné à tel ou tel endroit. Donc on étudie vraiment le comportement humain Et les sciences comportementales, et les nudgers en particulier, vont étudier ces comportements et ensuite vont voir quels leviers vont être efficaces pour modifier les comportements sans que l'individu s'en rende compte.
Oui, c'est ça. Vous écrivez, Audrey, que le travail des nudgers, on les appelle nudgers, consiste à organiser le contexte dans lequel les individus prennent la décision. Ça, c'est important, organiser le contexte. C'est-à-dire créer une atmosphère.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'architecture, on appelle ça l'architecture du choix. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter les choses d'une certaine manière. Une architecture du choix classique, c'est les sites Internet. Les sites Internet vont présenter, vont proposer, vont montrer les choses d'une certaine manière et qui vont inciter les individus à cliquer à tel endroit plutôt qu'à tel autre. On pense par exemple aux cookies sur Internet. Donc là, on va avoir une petite fenêtre pop-up qui va se présenter devant l'internaute. Et il va devoir choisir entre continuer pour lire les conditions. Voilà, donc ça, c'est écrit en gris, en petit, on le voit à peine. Parfois, ça n'y est même pas. En revanche, j'accepte les conditions. Là, va être en vert ou en couleur très, 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 très incitative et va inciter l'individu à cliquer dessus sans réfléchir finalement.
Je ne vous demande pas quel est le résultat de ce choix. C'est-à-dire que la plupart des personnes acceptent sans regarder.
Ah oui, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'effectivement, les individus cliquent sur « j'accepte » sans avoir lu les conditions. Et ils cliquent très rapidement pour justement accéder à leur contenu. Mais ils cliquent finalement « j'accepte » sans savoir ce qu'ils acceptent.
Et d'ailleurs, d'évidence, et vous l'écrivez, Audrey Chabal, le nudge a trouvé sa route sur le web. Est-ce que c'est là que ça a commencé ?
Alors, ça n'a pas commencé forcément sur Internet. Je dirais que ça a plutôt commencé dans tout ce qui est politique publique, marketing, publicité. En revanche, effectivement, sur Internet, c'est très, très présent, puisque la manière de présenter un site Internet va influencer le comportement de chaque individu face à sa page Internet. Et de fait, les sites Internet utilisent grandement les nudges. On pense aux cases précochées, par exemple, qui là jouent sur le biais, ce qu'on appelle le biais de statu quo, qui est un biais, en fait, qu'on a chacun, qui consiste à conserver l'existant. C'est-à-dire qu'on nous présente quelque chose, on ne va pas faire forcément la démarche de modifier ce qui nous est proposé. Typiquement, un site comme Netflix, par exemple, utilise ça, c'est-à-dire qu'il y a une lecture automatique. Donc, les épisodes s'enchaînent les uns à la suite des autres, mais ce n'est pas irréversible. On pourrait très bien enlever cette option, sauf qu'on ne le fait pas parce qu'il faut aller chercher dans les menus. On n'est pas d'ailleurs au courant forcément qu'on peut supprimer cette option-là. Donc ça, c'est un nudge qui nous incite à regarder toujours plus de contenu puisqu'ils s'enchaînent les uns après les autres.
Alors Audrey Chabal, nous parlons donc dans ce numéro d'idées du nudge, grâce à vous, grâce au livre que vous venez d'écrire, Souriez, vous êtes nudgé. Je voudrais que l'on revienne à Richard Taylor, qui a obtenu d'ailleurs le prix Nobel d'économie en 2017. Je trouve ça intéressant que le nudge ait été découvert et étudié par quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie. Ça veut dire que nudge est lié forcément à l'économie.
Alors forcément, oui, puisque les concepteurs du nudge sont un économiste et un juriste. Alors Richard Thaler a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux en sciences, en économie comportementale. Et pas spécifiquement sur ses travaux sur le nudge, mais effectivement, c'est lui qui a inventé ce concept. Et le nudge intéresse grandement les économistes, les entreprises, parce que on peut penser aux sites internet de voyage qui vont jouer sur ces nudges pour inciter les individus à acheter, à prendre une chambre d'hôtel, par exemple. Quand on a un petit écriteau qui s'affiche, il ne reste plus que deux chambres de disponibles, ou il ne reste plus que trois produits de ce type-là, ça incite l'individu à accélérer son achat. Donc ça intéresse grandement les économistes et les entreprises.
Il nous faut aussi parler d'un, vous avez cité son nom tout à l'heure, de quelqu'un dont on a déjà parlé dans cette émission, Edouard Bernays, qui est dans son genre un type formidable. C'est-à-dire qu'il a découvert des comportements et manipulé la foule de manière unique.
Oui,
c'est un exemple, c'est un cas d'école.
Edouard Bernays, c'est tout à fait fascinant. Il était journaliste.
Donc c'est un Américain.
C'est un Américain, tout à fait. Il a fait donc du journalisme. Il a fait aussi, il a beaucoup travaillé pour des entreprises privées. Et il a été introduit dans une commission. Donc là, on est en 1917, un an après l'élection de Woodrow Wilson comme président des États-Unis, qui avait fait sa campagne, donc en 1916, en déclarant aux Américains « Non, 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 on n'ira pas en guerre, c'est une guerre européenne, on ne s'en occupe pas ». En revanche, un an après, il souhaite que les Américains contribuent à cet effort de guerre. Et pour les inciter, sans les contraindre à contribuer à cet effort de guerre, il va faire appel à une commission, la commission Krill, du nom de cette personne qui a été à la tête de cette commission. Et dans cette commission Krill, il y avait Edouard Bernays.
Alors que tu étais un publiciste, non,
c'est,
à la base.
Oui, tout à fait, ouais. C'était un publiciste. Et Edouard Bernays a mis en place des choses tout à fait fascinantes. Il a inventé le concept d'influenceur. On pourrait traduire ça dans nos propos, dans nos termes d'aujourd'hui par influenceur. Il a invité des figures connues ou inconnues, c'est-à-dire des citoyens lambda, à se rendre dans les théâtres et dans les cinémas et à se lever pendant quelques minutes avant la séance pour promouvoir cet effort de guerre, pour rappeler à quel point c'était patriotique, important, etc. Et en fait, ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que les citoyens qui assistaient à ces petits discours qui semblaient tout à fait spontanés, qui ne l'étaient pas en fait, se sont emparés en fait du sujet et ont contribué à cet effort de guerre de manière volontaire. Alors qu'au départ, le président leur avait dit non, 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 on n'ira pas en guerre.
Et de fait, les Américains sont partis en guerre avec l'assentiment du peuple américain.
Tout
c'est-à-dire
à
que le président Wilson a envoyé des troupes américaines en Europe, en France singulièrement, avec l'accord, avec
fait,
le soutien de la population américaine, grâce en grande partie à ce qu'a fait Edouard Bernays.
Oui, oui, c'est vraiment le premier qui peut se présenter, d'ailleurs il le revendique, comme expert en relations publiques, puisqu'au départ, lui, ce qu'il faisait, c'était de la propagande. À l'époque, ce n'était pas un mot qui était un peu tabou, un peu controversé. En revanche, effectivement, rapidement, il s'est rendu compte que ce mot-là était peu accepté et il s'est qualifié d'expert en relations publiques. Il a incité de cette manière-là les individus, les citoyens américains à entrer en guerre.
Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'intitule « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». C'est un livre qui a été publié en France en 2007. Il a été écrit initialement en anglais en 1928, mais on peut le lire en français aux éditions La Découverte. Ça, c'est une action faite au nom de la patrie, au nom de l'État, des États-Unis. Mais ce monsieur Bernays a fait bien d'autres choses après.
Ah oui, c'est vraiment, ce sont des exemples qui sont très parlants et qui sont fascinants. Effectivement, Edouard Bernays a été embauché à la suite par des entreprises privées, notamment une entreprise qui souhaitait vendre du bacon. Son idée, lui, ça a été de dire qui est le mieux placé pour parler d'alimentation, ce sont les médecins de famille qui ont un assentiment très favorable auprès du public. Donc il allait voir les médecins, il a fait une étude, il leur a posé la question, est-ce qu'il est intéressant de manger des protéines au petit déjeuner ? Forcément, les médecins ont répondu oui, oui, c'est très bon pour la santé. Et il s'est servi de ces résultats-là pour promouvoir un petit déjeuner qui est aujourd'hui le petit déjeuner des Américains, bacon et œufs.
Et il a incité aussi, d'ailleurs, oui, constitution d'un petit déjeuner qui est discuté aussi sur le plan diététique, mais qui est bon, il faut le reconnaître. Audrey Chabal, il a aussi incité les Américaines à fumer.
Alors oui, ça c'est...
Ça, je trouve ça extraordinaire comme exemple.
C'est incroyable cet exemple. Donc Édouard Bernays était embauché par une entreprise de tabac. Il se rendait compte qu'il était tabou pour les femmes. Alors il faut voir à quelle époque qu'on était, dans les années 20.
Dans l'entre-deux-guerres, oui.
Voilà, les femmes ne fumaient pas, très très peu, ou ne fumaient surtout pas en public. C'était considéré comme étant vulgaire, c'était très mal vu. Et Édouard Bernays, on ne l'a pas dit, mais c'est le double-neveu de Sigmund Freud.
Et ça, c'est important.
C'est très important parce qu'il s'est appuyé sur les travaux de son oncle pour pousser les femmes à fumer. Donc les femmes, à ce moment-là, il y avait le mouvement des suffragettes pour le droit de vote. Et en gros, l'idée, c'était de se démarquer, de se détacher du patriarcat, du pouvoir des hommes. Et donc, il a considéré, grâce aux travaux de Sigmund Freud et d'un autre psychanalyste américain sur lequel il s'est appuyé, que les femmes devaient reprendre le pouvoir. Et comment reprendre le pouvoir avec un symbole fort, un symbole qu'il considérait comme étant phallique, la cigarette. Donc, il a invité des journalistes à assister à une manifestation des suffragettes et il leur a demandé d'allumer, en signe de protestation et de reprise du pouvoir féminin, des cigarettes en même temps, ce qui a fait la une des journaux le lendemain, parce que les femmes considéraient ces cigarettes comme les torches de la liberté. Et donc, dans les journaux par la suite, l'idée était clairement marquée que les femmes reprenaient le pouvoir grâce à ces torches de la liberté, et les femmes se sont mises à fumer des cigarettes.
Édouard Bernays, qui écrit, et vous le citez dans votre livre, Audrey Chabal, qui se demande et qui se pose ces questions suivantes. Qui sont les hommes qui, sans que nous en ayons conscience, nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et mépriser, nous indiquent comment aménager nos maisons et comment les meubler, quels menus doivent composer notre ordinaire, les blagues censées nous faire rire? C'est assez effrayant.
C'est effectivement assez effrayant.
Ce passage, cette suite de questions.
Oui, oui, tout à fait.
C'est effrayant.
C'est-à-dire que, voilà, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Propaganda. C'est vraiment pas pour rien. Mais il avait très, très bien compris que des influenceurs, des personnes pouvaient susurrer à l'oreille des citoyens des comportements qui étaient admis ou désirables. Et c'est ainsi qu'il a imposé ses idées.
Alors David Colombe, que vous citez dans le livre et qu'on a invité dans cette émission pour parler de la propagande, il a écrit un livre sur le sujet, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain. Il était venu nous en parler en 2019. Lui parle et étudie la propagande, mais ce que fait Bernays, c'est pas de la propagande. C'est est-ce qu'on peut parler de nudge déjà, c'est-à-dire une incitation au comportement?
Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec cet auteur, que je lui consacre un long paragraphe, parce que justement, c'est très éclairant sur la manière dont est utilisé le nudge aujourd'hui. Je rappelle la définition du nudge, c'est inciter sans contraindre. Donc, c'est vraiment aider les individus à adopter des comportements de manière volontaire, mais sous l'influence d'un architecte du choix, d'un nudger. Et c'est exactement ce que fait Bernays, c'est-à-dire qu'il... Il incite les individus à adopter des comportements, mais il ne va pas les féliciter ou les rétribuer s'ils adoptent ce comportement. Et à l'inverse, il ne va pas les sanctionner non plus. On est là totalement dans l'incitation douce, la méthode douce, comme disent Richard Thaler et Kassenstein. C'est vraiment ça.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Alors nous parlons du nudge donc dans ce numéro d'idées et il nous faut parler maintenant de l'utilisation du nudge par les États. Parce qu'on a évoqué les sociétés privées, les intérêts commerciaux divers et variés, mais la tendance du moment, c'est l'utilisation par les États démocratiques du nudge.
Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant parce que les États ont bien compris l'intérêt de ces nudges, de ces incitations douces.
Alors nous allons en parler. Il faut préciser que nous n'allons pas tomber dans les théories du complot. Nous avons consacré une émission récemment au complot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande organisation supranationale qui veut dicter nos comportements. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de techniques qui permettent au gouvernement de faire passer, j'allais dire, la pilule plus facilement. Parfois.
Oui, oui. C'est très bien de le préciser. Effectivement, loin de moi l'idée de tomber dans les théories du complot. Pas du tout.
C'est pas du tout ce que vous faites dans le livre.
Hein, pas du tout, ouais. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est juste le nudge, je rappelle, c'est juste un outil. C'est un outil qui vient souvent en complément de politiques publiques classiques, des amendes, de législation. C'est vraiment un outil qui vient en complément. Là où il est intéressant pour les États, le premier à l'avoir utilisé, c'est Barack Obama, qui a fait appel donc au fondateur du nudge pour inciter les individus aux États-Unis, notamment à prendre une assurance retraite. Aux États-Unis, le système est différent. Les citoyens, les salariés ne contribuent pas tout au long de leur vie. Ils se retrouvent à la fin de leur carrière s'ils n'ont pas pris les devants, sans rien en fait. Donc l'idée de Barack Obama, c'était de les inciter à adopter ces assurances retraites pour avoir un petit pécule à la fin de leur carrière. Tout simplement. Donc là, il a fait appel aux sciences comportementales, à Cass Sunstein notamment, pour inviter les individus, les salariés, à mettre un petit peu d'argent de côté tout au long de leur carrière. Il y a David Cameron aussi au Royaume-Uni qui a utilisé ces techniques-là. Ce sont des outils qui viennent voilà, en parallèle, en complément de politiques publiques beaucoup plus classiques.
Donc c'est quelque chose qui est assez récent pour les États.
C'est très récent, effectivement. Barack Obama, c'est 2008-2009. Sa nudge unit date de cette époque-là, donc c'est assez récent effectivement et c'est utilisé notamment au Royaume-Uni. Là, à nouveau, l'administration Biden fait appel au nudge de nouveau. Et puis en France aussi, c'est utilisé également.
Alors justement, vous avez un passage qui m'a fait sourire, justement, pour faire référence à votre titre. Vous parlez de l'introduction du nudge en France au niveau des États. Mais comme nous sommes en France, il faut compter aussi avec l'administration. Et je cite ce passage qui m'a fait hurler de rire quasiment. La France aussi possède sa nudge unit, parce qu'il faut parler anglais dans ce monde. Enfin, c'est plus compliqué. Le département sciences comportementales de la direction interministérielle de la transformation publique, déjà ça en dit long, est le digne héritier du JMAP, qui lui-même remplace la DGME, qui regroupait la DUSA, la DMGPSE, l'ADAE et la DRB.
Oui.
La France est là ?
La France est là, oui. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va parler de nudge unit. En France, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, vous avez parlé du SGMAP, donc qui était un département qui appartenait donc à l'État et qui a mis en place notamment cette déclaration en ligne des impôts. Ils ont travaillé avec, là encore, la BVA Nudge Unit pour inciter les citoyens à déclarer leurs impôts sur Internet et non plus par papier.
De qui dépend cette direction
Alors aujourd'hui, la direction interministérielle de la transformation publique, qui ne fait pas que du nudge et qui a un département sciences comportementales, tout petit département, ils sont 5, un haut fonctionnaire et 4 chercheurs. Ce département travaille directement en lien avec le service d'information du gouvernement et dépend du ministère de la transformation publique avec Amélie de Montchalin à sa tête.
Donc le nudge en France est utilisé pour transformer l'État.
Exactement. On utilise le nudge en France pour simplifier. Essentiellement pour simplifier les démarches administratives. ou pour mettre en place des programmes. Donc, par exemple, la DITP a un programme pour réduire l'utilisation du chauffage au bois. Donc ça, c'est un programme, voilà, qui a été mis en place justement parce que le chauffage au bois a plutôt bonne presse. Dans l'idée, on pense chauffage au bois, on pense feu de cheminée, donc plutôt sympa. Malheureusement, le chauffage au bois est très très polluant et plutôt que de l'interdire, ce qui aurait été une option, l'État a choisi de mettre en place un programme Nudge pour inciter les utilisateurs de chauffage au bois à réduire leur consommation, voire à changer leur mode de chauffage. Donc là, ce sont des leviers comportementaux avec notamment des lettres qui sont envoyées pour expliquer, pour jouer sur des leviers, sur des biais comportementaux pour inciter les individus à changer leur consommation.
Et pour tirer, là je vous cite Audrey Chabal, les ficelles du paternalisme libertarien. Ça mérite une explication. Ça.
Alors le paternalisme libertarien, c'est un peu ce qui a été à l'origine de l'écriture de ce livre. Mmh. Le paternalisme libertarien, c'est un concept qu'on connaît très très peu en France. Le paternalisme, on voit à peu près tous ce que c'est. Voilà, c'est gérer une entreprise ou un État en bon père de famille. Donc on voit très bien le chef d'entreprise ou le chef de l'État avoir une attitude paternaliste avec ses citoyens ou avec ses salariés. En revanche, libertarien, c'est un terme qu'on connaît très très peu. Le libertarianisme, c'est l'idée de laisser le libre choix et le choix ultime aux individus. Donc d'un premier abord, on peut se dire paternalisme libertarien, c'est un oxymore, c'est antinomique, on ne voit pas trop le lien entre les deux. Ce lien-là a été fait par Richard Thaler et Cassian Sinn, là encore, qui considèrent qu'il est légitime d'influencer, donc là c'est l'aspect paternaliste, mais que les individus doivent choisir. Donc on laisse la responsabilité aux individus de prendre la dernière, l'ultime décision, en les ayant quand même influencés vers le choix que l'on considère comme étant le meilleur, puisque, je le rappelle, on part du principe avec les sciences comportementales et l'économie comportementale que les individus ne sont pas rationnels et donc ne seraient pas en mesure de prendre de bonnes décisions.
Ça, cela implique, et vous le soulignez, Audrey Chabal, une vision individualiste de la société.
Oui, alors c'est ce qui, moi, me pose problème dans cette conception, c'est que on oublie un petit peu l'aspect collectif des politiques publiques, puisque là, on parle de politique publique quand on utilise le nudge dans l'État. On oublie un petit peu cet aspect-là pour le remplacer par la responsabilité individuelle. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie.
On va y revenir, bien sûr.
Voilà, on a beaucoup insisté sur cet aspect de responsabilisation de l'individu, tout en oubliant que l'État avait aussi sa part à jouer dans une pandémie, par exemple, mais aussi sur des problématiques de politique publique telles que la prise en charge de l'obésité ou des problématiques concernant l'écologie.
Et ça, c'est une réflexion que vous faites dans le livre, c'est-à-dire vous vous interrogez sur le rôle de la politique là-dedans. Vous dites que le nudge, c'est une manière un peu hypocrite de faire de la politique.
Oui, selon moi, c'est assez hypocrite, effectivement, dans la mesure où l'État se dédouane de certaines de ses responsabilités pour faire reposer les décisions sur les individus, tout en les ayant nudgés. Donc, en gros, l'État dit, nous, on a fait notre part en influençant. Si ensuite les citoyens ne se comportent pas de manière adéquate, ce n'est pas de notre faute. Sauf qu'on le voit là, par exemple, avec la pandémie, l'État, par exemple, n'avait pas anticipé cette pandémie, avait laissé s'écouler tout un stock de masques qui n'avait pas été renouvelé. On arrive en plein milieu d'une pandémie sans masques chirurgicaux, sans masques FFP2. Et donc là, on essaie de responsabiliser les individus en les incitant à confectionner eux-mêmes leurs masques. Il y a des sociologues, des organisations que je cite dans mon ouvrage qui ont fait un travail remarquable là-dessus, en montrant comment sur 10 ans, l'État n'a pas pris sa part pour anticiper une pandémie. Puisque je rappelle, il y avait eu ce précédent de la grippe H1N1 qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quand même. Mais voilà, il y a eu un délitement et une réduction des stocks de masques, par exemple. Et à ce moment-là, l'État a fait appel au nudge comme un peu une rustine sur un bateau en train de couler.
Alors qu'a fait le nudge, si je puis m'exprimer ainsi, parce que le nudge n'est pas une personne. Qu'ont fait les responsables qui mettent en avant ce nudge? Ils ont d'abord joué sur la peur, semble-t-il, non?
Alors oui, il y a eu cet aspect-là qui a été utilisé. Donc ça, c'est une chercheuse, Coralie Chevalier de l'ENS, qui est un département de sciences comportementales, qui m'a expliqué qu'effectivement, c'est une pandémie et c'est une pandémie qui est hautement comportementale. Dans la mesure où au début, on n'avait ni masque, ni vaccin, ni traitement, et qu'il fallait jouer sur les comportements individuels pour faire en sorte de ralentir, de freiner la propagation du virus. Donc, on a incité les individus à porter le masque, utiliser avec abondance du gel hydroalcoolique, désinfecter, etc., garder ses distances. Donc, pourquoi pas utiliser le nudge mais effectivement, on voit bien là le décalage entre l'État qui ne prend pas sa part et l'utilisation du nudge. Et sur la peur, elle me racontait que, effectivement, le décompte des morts auxquels on a eu droit durant le premier confinement.
Avec cette conférence de presse quotidienne du voilà. directeur de la santé.
Hein, exactement. Qui, Jérôme Salomon qui, tous les soirs, devant les journalistes, en conférence de presse, donnait le nombre de morts, de malades, d'hospitalisations, etc. Ça jouait sur un levier qui est très efficace, qui est celui de la peur. Donc, c'était pour marteler un peu dans la tête des citoyens que c'était une situation qui était gravissime et leur faire un petit peu peur pour les inciter à rester chez eux.
Alors, vous publiez des documents très intéressants, notamment une note, les conseils du département sciences comportementales de la DITP pour lutter contre la propagation du Covid-19. Je ne vais pas lire l'ensemble des recommandations, mais la première me semble intéressante. Donc, ce département qui met en avant le nudge écrit ceci. Rendre les choses simples, par exemple en utilisant le plus de visuels possible. Rendre le danger saillant et visible. Donner moins d'informations, c'est en donner plus, étrange formule, s'assurer de la cohérence entre les différentes communications, dire aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Oui, oui,
c'est étrange, cette donner moins d'informations, c'est en donner plus.
Alors, c'est étrange, oui et non. C'est-à-dire qu'une information, si on se retrouve avec un énorme paragraphe à lire, si on n'a pas le temps, si c'est mal formulé, on va passer à côté. Là où a joué la DITP, c'était de mettre en avant le fait que écrire, par exemple, ou dire 9 personnes sur 10 est beaucoup plus parlant que de dire 90%. Ce sont des petits détails, mais des petits détails qui marquent les esprits, c'est-à-dire qu'une information claire et saillante va être beaucoup plus marquante pour l'individu qui va comprendre tout de suite de quoi il s'agit et qui va comprendre tout de suite ce qu'il faut faire.
Est-ce que le nudge est en action en ce moment?
Alors tout à fait, le département donc de la BVA Nudge Unit travaille.
Alors c'est intéressant, ça, je vous interromps un instant, Audrey. BVA Nudge Unit, d'ailleurs, c'est une entreprise privée.
Oui, c'est une entreprise privée, c'est une filiale de BVA qui travaille pour l'État. En tout début de pandémie, Eric Singler, le fondateur de la BVA Nudge Unit, a publié un message sur les réseaux sociaux en s'alarmant du fait que Emmanuel Macron avait donné des consignes claires, restez chez vous, etc. Mais qu'il faisait
beau. L'avez-vous les mains ?
Voilà. Oui, tout à fait. Lavez-vous les mains. Il avait joint le geste à la parole durant un de ses discours. Mais malgré tout, les individus faisaient beau à cette époque et les citoyens sortaient dans les parcs et ne respectaient pas forcément les consignes de rester chez soi. Et Eric Singler s'est ému de ce décalage entre la réalité de la gravité de la situation et les comportements individuels. Il a publié une note sur LinkedIn, le réseau social, en demandant la création d'une task force, donc une unité spéciale de sciences comportementales pour aider le gouvernement. Et il a été sollicité pour travailler avec, en parallèle de la DITP, donc le service sciences comportementales de la DITP, pour aider le gouvernement à améliorer sa communication et à inciter les individus à adopter de nouveaux comportements.
C'est-à-dire les termes première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, c'est eux, par
Alors,
exemple.
Tout à fait. Alors, en tout cas, BVA, la BVA Nudge Unique revendique la paternité du terme de masque grand public. Et de parler de masque grand public, c'était une manière d'inciter les individus à reprendre leurs fils et leurs aiguilles et à confectionner leur fameux masque en tissu aux normes AFNOR, mais aussi à laisser du coup les masques chirurgicaux et FFP2 aux soignants. De la même manière qu'utiliser les termes de première, deuxième et troisième ligne, l'idée c'était de faire comprendre aux gens qu'ils devaient télétravailler, rester chez eux s'ils n'avaient pas besoin de sortir, et qu'en revanche ceux qui étaient au front, pour reprendre le vocabulaire guerrier d'Emmanuel Macron, c'était les soignants, les caissières, les éboueurs qui, eux, étaient en première et deuxième ligne et qui, eux, avaient le droit et la possibilité de sortir pour aller travailler.
Alors, si j'ai bien compris, en ce moment, en ce qui concerne les mois que nous vivons et la vaccination, le nudge, cette équipe, met en avant le geste altruiste qui consiste à se faire vacciner, non, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait. Il y a un spot qui est assez récent, qui a été diffusé par le gouvernement, un spot mettant en avant la vaccination, où on associe la vaccination avec un retour à la vie normale. Donc le montage est très rapide, on voit une personne qui se fait vacciner et hop, tout de suite, on peut voir un théâtre ouvert, une terrasse, les commerces qui rouvrent, etc. Donc là, c'est jouer sur ce qu'Eric Singler appelle le biais du temps présent, c'est-à-dire faire comprendre aux individus que oui, on leur demande un effort en se faisant vacciner, mais oui, le bénéfice va être immédiat, ce qui selon moi n'est pas vrai puisque la preuve... On est de plus en plus nombreux à être vaccinés, mais malgré tout, on continue de porter le masque à peu près partout, sauf à l'extérieur.
Oui, avec cette ambiguïté, c'est-à-dire que la vaccination n'est pas obligatoire, mais il faudra sans doute un passeport vaccinal pour visiter des pays, visiter des endroits. Et vous dites que ça vous fait penser un petit peu à ce qui se passe en Chine avec le crédit social, c'est-à-dire vous êtes un bon citoyen, vous avez des points, vous n'êtes pas un bon citoyen, attention.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça, c'est venu de Richard Thaler, donc le papa
toujours
du
le
nudge, toujours lui, qui a publié dans le New York Times une tribune, c'était l'été dernier déjà, en faisant la promotion de ce pass vaccinal, qui est différent du pass sanitaire, mais le pass vaccinal, c'est vraiment l'idée de le vaccin n'est pas obligatoire. En revanche, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus accès à certains lieux, les restaurants, les cinémas, voire même, lui, il dit les universités. Donc, il faudrait montrer patte blanche, en fait, à l'entrée de ces lieux avec soit un QR code, soit un document prouvant de sa vaccination. Et ça, à mon avis, c'est à la fois hypocrite et à la fois dangereux. Hypocrite parce que il y a des pays dans lesquels il faut se faire vacciner, par exemple, contre la fièvre jaune pour pouvoir entrer dans ces pays. Dans ce cas, c'est clair, la vaccination est obligatoire. En France, 13 vaccins sont obligatoires pour mettre ses enfants en collectivité. Donc là, c'est clair, les vaccins sont obligatoires. Là où c'est beaucoup plus insidieux, à mon avis, c'est que ces vaccins contre le Covid-19 ne sont pas obligatoires. Malgré tout, on nous présente un pass vaccinal ou un pass sanitaire qui est moins contraignant pour pouvoir accéder à certains endroits. Et je fais le parallèle effectivement avec ce crédit social chinois où on gagne des points si on traverse la route dans les clous. Si on joue trop aux jeux vidéo, par exemple, on va perdre des points et donc on va avoir une moins bonne assurance et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment la porte ouverte à quelque chose qui est, selon moi, un petit peu dangereux.
Terminons notre conversation, Audrey Chabal, autour de cette question du nudge. Vous citez le patron de BVA, de la BVA Nudge Unit, toujours lui, qui dit que lui où eux sont là pour influencer pour le bien. Cela pose une question redoutable. Qui décide ce qu'est le bien ?
C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que les nudgeurs, eux, vont dire « nous faisons du nudge pour le bien ». D'ailleurs, ils le disent encore pour utiliser un anglicisme. Ils parlent de « nudge for good », donc le nudge pour le bien. Et ils mettent en avant des problématiques environnementales, de santé publique, etc. Malheureusement, effectivement, on peut se questionner en tant que citoyen et se dire « mais qui décide de ce qui est bon et de ce qui est bien ?» Finalement, est-ce que moi, en tant que citoyenne, je n'ai pas le droit de questionner quelque chose qui viendrait d'en haut pour m'influencer pour mon bien, mais finalement, est-ce que c'est vraiment pour mon bien ? Et on le voit avec l'utilisation des nudges par les entreprises privées. Est-ce que c'est vraiment pour le bien ou est-ce que c'est plutôt pour l'intérêt de l'entreprise en question qui met en place les nudges ? Donc on peut se poser la même question finalement pour les politiques publiques. Dans quelle mesure c'est vraiment pour le bien ? Et d'ailleurs, les concepteurs du nudge, Thaler et Sunstein, parlent de pente savonneuse dans leur ouvrage. Ils ont écrit tout un chapitre là-dessus pour mettre en garde justement les utilisateurs du nudge parce qu'il y a une pente savonneuse, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour faire le mal.
Là, on est en plein dans la question du gouvernement des experts.
Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de personnes qui va décider à la place des individus sans qu'il y ait débat, sans que ce soit d'ailleurs très conscient, puisque le nudge joue beaucoup sur ce qui est inconscient, ce qui est intuitif, direct, immédiat, sans s'adresser à la rationalité des individus. Et du coup, on peut effectivement se questionner sur la place du citoyen là dans un débat public qui le concerne directement et duquel il est un petit peu évincé.
Merci André Chabal. Il faut lire votre livre qui s'intitule « Souriez, vous êtes nudgé, comment le marketing infiltre l'État ». C'est un essai publié aux éditions du Faubourg et il en dit long et il nous interpelle ce livre.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Si vous souhaitez nous écrire par courriel, voici notre adresse électronique.
Idée au pluriel. @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI. RFI.